La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, Raïssa et Jacques Maritain nous parlent de saint Thomas d'Aquin. Pourquoi saint Thomas d'Aquin peut-il être désigné par Jacques Maritain comme l'apôtre de l'intelligence, l'apôtre des temps modernes? La question que pose Maritain dans le Docteur Angélique au chapitre 2 intitulé « Le sage architecte », après avoir constaté que l'Occident est un endroit où la chrétienté se développe, c'est de savoir si la chrétienté se superpose à l'Occident. A-t-on le droit d'identifier à quelque titre que ce soit le monde occidental et la religion chrétienne ? Écrit Maritain. Non. Ce serait une erreur mortelle et souverainement impertinente, à laquelle le langage de certains apologistes maladroits paraît prêter parfois, mais qui répugne essentiellement à la note par excellence, à savoir la catholicité de la religion du Christ. Catholicité veut dire universelle. Du coup, deuxième question. Est-ce à dire que l'Occident n'a pas une mission particulière à l'égard de cette religion ? Ce serait là une autre erreur, écrit Maritain. Le pape Léon XIII a lui-même marqué l'importance de cette mission. Si l'Occident, qui doit tant à l'Église, a servi si longtemps comme de corps profane à la culture chrétienne, c'est qu'il avait été précisément choisi pour évangéliser le reste du monde. Non pour asservir l'univers à ses intérêts militaires ou commerciaux, mais pour servir l'univers en lui portant le message de la rédemption. Comment concevoir ça aujourd'hui, au XXIe siècle, où la globalité, l'économie, les rapports de force, les ventes d'armes semblent régir le monde et où l'effacement du rôle de l'Occident semble enregistré par rapport à la montée de la Chine ou de l'Asie d'une manière plus générale. Maritain nous propose une solution en 1930, elle date, mais elle est peut-être aussi d'actualité. Il va distinguer la différence entre le plan conditionnant, c'est-à-dire s'attacher aux particularités d'une région, d'une culture, et le plan déterminant, qui permet la communicabilité des cultures, et le tronc commun, c'est l'intelligence de l'homme. Voilà comment on y arrive. S'attacher aux particularités d'une région, à sa langue, à ses coutumes, à ses libertés, et prolonger ainsi un peu plus la beauté des choses périssables, les travaux et les jours dont est chargé le privilège du lieu, c'est l'affaire des poètes. Le politique est encore d'une certaine manière particulariste, car il a charge du bien commun d'une patrie, qu'il doit viser d'abord, de telle sorte pourtant qu'aimant sa patrie plus que les autres, il ne cesse pas pour cela d'aimer les autres et de leur vouloir du bien, et ne lèse ni les droits de la personne humaine, ni les intérêts du genre humain. Vous le devinez, il y a un autre ordre, celui de l'intelligence. C'est-à-dire que Maritain va défendre le christianisme comme pensée. Le christianisme est une pratique, le christianisme est une foi, le christianisme est une piété, le christianisme est une charité. Le nombre de chrétiens qui ont changé le monde par les associations, au sein même du monde laïque. On peut mettre sur le compte des chrétiens l'abolition de l'esclavage, purement et simplement. La pensée chrétienne est encore un autre plan qu'on ne doit céder en rien. Et elle peut dialoguer avec la pensée juive, la pensée athée, la pensée orientale. Il y a une pensée chrétienne et c'est ce que va défendre Maritain. Pourquoi ? Parce qu'un tronc commun plus global que la globalisation, c'est l'intelligence. Dans l'ordre de l'intelligence, dans l'ordre de la pensée, dans l'ordre de la culture, il faut être résolument universaliste, écrit Maritain. C'en est fini de tous les barrages de protectionnisme intellectuel. Chaque livre, chaque article de journal a des lecteurs sur les rives du Gange et du fleuve Jaune, comme sur celle du Rhin et de la Tamise. Tous les produits de l'esprit se croisent et se mêlent d'un bout du monde à l'autre. Il faut choisir entre un confucianisme abominable et l'unité spirituelle de la culture chrétienne, avec tout ce que cette unité comporte de formation rigoureuse, de discernement et de hiérarchie. C'est vers cette unité spirituelle de la chrétienté à restaurer que sont tendus aujourd'hui tous les désirs de l'Église du Christ, parce que le message rédempteur s'adresse à tous les hommes et parce que ce message doit être délivré. Ces lignes datent de 1930, à un moment où Jacques Maritain rêve d'une Europe chrétienne. Après l'âge médiéval, l'ère médiévale où le trône et l'autel sont soudés, Maritain la qualifie d'ère sacrale. Il y a l'ère moderne, qui est un humanisme, c'est-à-dire quelque chose d'anthropocentré. L'homme se retrouve au centre. Après la fracture de 14-18, la fin des empires, la fin des temps modernes, on passe au temps contemporain et Maritain propose un humanisme théocentré. Il garde l'apport de l'humanisme parce que l'esprit est à l'œuvre dans l'histoire. Il y a toujours un apport. Mais il faut le recentrer sur Dieu. Et donc, Maritain, à l'aide du prince Vladimir Gicka, à l'aide de Peter Wüst, à l'aide de Berdiaev, et de ce lien entre orthodoxes, chrétiens, catholiques allemands, catholiques de l'Europe entière, Maritain rêve d'une Europe chrétienne qui va s'opposer à l'Europe franc-maçonne de la Société des Nations. Échec, montée des puissances du nazisme. Pour nous, est-ce qu'on doit s'en tenir là à un échec de dire on enterre cette idée? Ou au contraire, on la reprend en lui donnant une autre modalité. Mais pour cela, replongeons-nous dans le projet maritainien quant à l'intelligence elle-même. Maritain s'aperçoit de l'importance de la métaphysique. D'une façon plus ou moins étroite et servile, selon que leur niveau métaphysique est plus ou moins élevé, toutes les religions autres que la religion catholique sont des parties intégrantes de certaines cultures déterminées, particularisées à certains climats ethniques et à certaines formations historiques. Seule la religion catholique, parce qu'elle est surnaturelle et descendue du cœur percé de Dieu mourant sur la croix, est absolument et rigoureusement transcendante, supra-culturelle, supra-racique, supra-nationale. Petit rappel historique. 5 patriarcats dans les premiers siècles du christianisme. Jérusalem, bien sûr. Antioche, Alexandrie, Constantinople et Rome. Rome est le seul patriarcat en Occident. Les 4 autres sont en Orient et vont tout de suite donner un dessin, on va dire, un schéma, une note, une couleur à l'Église orientale qui va articuler très souvent l'Église et l'État. C'est ainsi parce qu'elle est plus localisée. Rome, au contraire, va développer la supranationalité du fait qu'elle soit une. Et le pape incarne de manière très concrète le chapitre 17 de Saint Jean, qui soit un Père, comme toi et moi, nous sommes un. Du coup, cette supranationalité de l'Église catholique universelle fait que, toujours aujourd'hui, dans l'œcuménisme, l'Église catholique ne peut pas aller jusqu'à un certain engagement œcuménique qui voudrait que toutes les Églises soient à même niveau. Ce n'est pas possible. Et c'est lié aussi à une dimension métaphysique. C'est-à-dire que ce que l'Occident a développé, c'est cette pensée d'une théologie cataphatique et non pas apophatique comme en Orient, c'est de dire l'intelligence peut aller le plus loin possible dans l'énonciation de Dieu sans en enlever le mystère, bien évidemment. Le mystère reste le mystère, mais il y a une possibilité. Pourquoi ? Parce que l'intelligence est la faculté la plus haute de l'homme qui nous rend le plus conforme à l'image de Dieu. que l'ordre de l'intelligence à son objet soit ainsi brisé. Nous avons peine à comprendre la signification terrible, chargée de sang et de larmes, de ces quelques mots abstraits. Nous avons peine à nous représenter l'immense subversion, l'immense catastrophe invisible désignée par là, l'intelligence. Cette activité divine, comme disait Aristote, ce prodige de lumière et de vie, cette gloire et cette perfection suprême de la nature créée, par laquelle nous devenons immatériellement toute chose, par laquelle nous posséderons un jour notre béatitude surnaturelle, de laquelle ici-bas procèdent tous nos actes en tant qu'actes humains et dépend la rectitude de tout ce que nous faisons, imagine-t-on ce que peut être pour l'homme la perturbation de cette vie, participer de la lumière divine qu'il porte en lui ? Drame pour Maritain. Que cette blessure de l'intelligence, cet obscurcissement de l'intelligence, cet oubli de sa nature profonde. Alors, il a écrit les trois réformateurs, que sont Luther, Descartes et Rousseau, et la lutte contre Descartes au plan de l'intelligence est radicale chez Maritain. Alors, son propos est toujours un peu rempli de la verve qu'il a hérité de son parrain, Léon Bloir, qui est un véritable vitupérateur, un pourfendeur. Maritain écrit plusieurs repentirs sur son style de jeunesse. Donc, quand je vous lis des passages de Maritain, que je tiens à vous lire parce qu'il a été récompensé de prix littéraires dans les années 60, c'est un des plus grands écrivains français avec Bergson, et ça vaut la peine d'entendre sa manière de construire de très longues phrases, de créer des mots, de créer des ruptures, de chercher comment le sens peut affleurer à l'interstice même des phrases. On a parfois une écriture très proche de l'écriture de la philosophie dite phénoménologique. C'est extraordinaire de voir la modernité de Maritain dans son style même. Du coup, petite parenthèse, le polémiste ressort et parfois sa plume a une verve qu'il va ensuite déplorer ou regretter, mais il ne va pas pour autant réécrire le livre parce que le fond reste bon. Du coup, je peux vous lire la suite. La révolution qui commence avec Descartes et continue avec les philosophes du XVIIIe et du XIXe siècle est un cataclysme historique, infiniment plus grand que les plus redoutables bouleversements de l'écorce terrestre ou de l'économie des nations. Revenir à Aristote, revenir à une vision de l'intelligence angélique, c'est le rôle de saint Thomas d'Aquin. Le thomisme est seul en état de délivrer l'intelligence des erreurs radicales signalées au début de ce chapitre. Il s'agit de la peau des temps modernes dans le docteur angélique. Consciente de l'infinie élévation et de l'infinie liberté du Créateur, comme du fond radicalement contingent de l'être créé, assurant grâce à une saine notion de l'universel la valeur de la nature et de ses lois, et montrant que cette nature reste au regard de Dieu immensément ductile et immensément achevable, toute pénétrable à l'influx divin, elle réduit à l'absurde le postulat naturaliste et l'hypocrisie métaphysique qui, cachée derrière les sciences positivistes, essaie de conférer à la créature la séité divine. Je résume. Rester docile, donc poreux à la grâce, permet à l'intelligence d'être profondément elle-même. Se fermer à la grâce, se replier sur soi, c'est vouloir prendre la place de Dieu. Et l'intelligence n'est plus glorieuse, lumière, ni vie. Elle est comme quelque chose de sec. Voilà comment Maritain voit l'agonie de l'intelligence, le danger dans lequel elle est. Comprenant tout ce que la notion même d'animal raisonnable comporte de grandeur et de servitude, situant l'intelligence humaine au plus bas degré de l'échelle des esprits, rabattant rudement toutes ses prétentions à jouer à l'esprit pur, faisant la juste part de l'autonomie qui nous convient comme esprit et de la dépendance qui nous convient et comme créature, et comme créature matérielle, et comme créature blessée, elle détruit par la racine, par sa racine angéliste, un individualisme anthropocentrique qui sacrifie en réalité la personne humaine à une image de l'homme illusoire et dévorante. Et en même temps, elle restitue la dignité de la personne contre tout ce qui désespère de la raison et de la liberté et tout ce qui déifie l'État. Ce paragraphe est dense. Maritain parle d'animal raisonnable. Vous reconnaissez une citation d'Aristote. Aristote définit l'homme comme un animal raisonnable ou un animal politique, mais cette définition est fondamentale. C'est que la raison, l'intelligence, va spécifier l'homme dans le genre des animaux. Le génie d'Aristote, c'est d'avoir qualifié chaque règne, végétal, minéral et animal, d'un même dénominateur commun, l'âme. L'âme minérale, l'âme sensible pour le règne animal, et l'âme raisonnable, l'âme intellective pour l'homme. Du coup, les trois règnes sont rassemblés par la vie, mais c'est comme si l'intelligence permettait à la vie d'être le plus vivante possible, la plus vivante possible, le plus vie possiblement. C'est en partant de cette définition que Maritain peut montrer que la créature blessée peut, par une juste vision de l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence angélique, se rétablir. Et là, on entre dans la théologie catholique qui montre que le degré de finitude le plus grand qui éloigne le plus l'homme de Dieu, c'est le temps et l'espace. Donc c'est le monde terrestre dans lequel nous sommes marqués par le temps, la mort et l'espace, le corps. Cela nous éloigne de Dieu qui, lui, est infini. Mais nous avons un lien à Dieu qui est la ressemblance par l'amour et par l'intelligence. Même si, dans le plan d'éloignement et donc de marque de degré de finitude de plus en plus grand, il peut y avoir au début les anges, les chérubins, les séraphins, puis ensuite il y aura les vertus, les ordres, etc. Et on descend dans cette chaîne. Mais l'intelligence reste un tronc commun dans cette chaîne des créatures. Et du coup, en retrouvant une intelligence haute, c'est-à-dire pratiquement angélique, d'où le nom de docteur angélique Dona Saint Thomas, non seulement on restitue l'homme dans la chaîne des vivants en tant que genre propre, spécifique, comme animal raisonnable, mais on va situer la personne humaine propre en tant que personne unique dans son acte d'intelligé. C'est un paragraphe très fort qui ne forme qu'une seule phrase et qui permet, Maritain est très synthétique, de sortir de la déification de l'État avec un grand E, c'est la dernière phrase. En même temps, elle restitue la dignité de la personne contre tout ce qui désespère de la raison et de la liberté et tout ce qui déifie l'État. Donc l'intelligence, c'est le moyen de lutter contre l'État totalitaire. En résumé, c'est ce que Maritain écrit en 1930. Et pour cela, il va faire appel à l'intelligence telle que Saint Thomas non seulement la conçoit, mais l'exerce. C'est un exercice d'intelligence. Comment le définir un peu plus longuement? C'est que Saint Thomas, et voilà son bienfait le plus immédiat, ramène l'intelligence à son objet, l'oriente vers sa fin, la rend à sa nature. Il lui dit qu'elle est faite pour l'être. Qu'est-ce que l'être? Alors l'être, il se dit de diverses manières, écrit Aristote dans la Métaphysique, c'est-à-dire qu'il est, il se pense de manière analogique. Et parce qu'il se pense de manière analogique, l'intelligence a une adéquation, on va dire, faite pour l'être, parce qu'elle pourra le saisir par intuition dans ce qu'il est et le penser à travers ses analogués. Quand il va se dire de manière analogique dans la chaise, la table, le coucher de soleil, l'arbre, vous, moi, etc. C'est une saisie de l'être par l'acte d'exister. Et c'est l'intelligence qui peut le comprendre. Ce qui est important à retenir, c'est que saint Thomas rappelle l'orientation de l'intelligence faite pour l'objet. Elle a une finalité. Elle n'est pas faite pour le sujet. Quand elle est faite pour le sujet, cela mène à l'idéalisme. Mais quand elle est faite pour l'objet, c'est que le sujet devient l'objet. Il devient par un mécanisme qu'on a déjà vu, c'est le mécanisme, pardonnez-moi l'expression de mécanisme, mais c'est le processus d'intentionnalité. Le sujet connaissant devient intentionnellement l'objet connu. Et c'est ça la grandeur de l'intelligence, c'est-à-dire qu'elle nous décentre de nous-mêmes. « Je est un autre », écrit Rimbaud, et Maritain reprend l'expression pour l'appliquer à l'intelligence. Et nous décentrant de nous-mêmes, elle rappelle le geste matriciel qui est la sortie du sein du Père pour l'incarnation et pour la remontée. Geste qui est aussi celui de la vie de saint Thomas. Il part du mont Cassin, il est bénédictin à vie contemplative, et il sort pour devenir frère prêcheur, et puis il mourra à nouveau dans un monastère bénédictin. Ce geste est fondamental, ça ne veut pas dire qu'il, dans cette expropriation du soi, comme dira Maritain à la fin des degrés du savoir, il n'y a pas le propre, c'est-à-dire l'essence même de l'homme. Non, ce serait ridicule de penser qu'il y a une inconsistance, qu'il y a un vide. Non, il y a bien l'être, l'essence, et le geste, ou la geste, au sens de l'épopée, la grande geste humaine, c'est cette sortie de soi qui est le fondement même de l'acte d'intelligence. C'est comme si on disait à l'œil qu'il est fait pour voir, aux ailes qu'elles sont faites pour voler, elle se retrouve elle-même en retrouvant son objet. L'intelligence s'ordonne tout à l'être, selon l'inclination souveraine que les choses ont pour leur principe. Elle tend par-dessus tout vers l'être même subsistant, et ici il y a une majuscule, vous comprenez que l'être même subsistant, c'est Dieu. En même temps, la simplicité du regard lui est rendue. Des obstacles artificiels ne viennent plus à la faire hésiter devant l'évidence naturelle des principes. Elle restaure la continuité de la philosophie et du sens commun. Soumise à l'objet, mais pour parvenir à sa vraie liberté, car c'est dans cette soumission qu'elle agit de l'activité la plus spontanée et la plus vivante, docile à l'enseignement des maîtres, mais pour rendre plus intense et plus parfaite sa propre saisie de l'objet, car c'est par amour de l'être qu'elle demande au labeur des siècles de la secourir et de la fortifier. Elle rétablit au-dedans de soi ses hiérarchies essentielles et l'ordre de ses vertus. Ainsi, ce qui fait la noblesse des philosophes modernes en particulier, c'est qu'en dépit de leurs égarements, ils aiment l'intelligence, même quand ils la ruinent. Mais pour la plupart, ils l'ont aimée plus que Dieu. Saint Thomas aime Dieu plus que l'intelligence, mais il aime l'intelligence plus que tous les philosophes ne l'ont aimé. C'est pourquoi il peut la restaurer en lui rappelant ses devoirs. Il la tire de sa lâcheté, il lui rend le courage d'affronter les vérités suprêmes, il la tire de sa vaine gloire, il la plie à se mesurer sur les choses et à écouter une tradition. Il lui rapprend à la fois les deux vertus complémentaires qu'elle avait perdues ensemble, la magnanimité et l'humilité. Au revoir, à bientôt.